Babylone. Nicole Duparc.
Et Sophie Proust, bienvenue à Babylone, au menu du jour, un plat de résistance et une question de plus en plus insistante dans le débat public, faut-il arrêter de manger de la viande? Les omnivores que nous sommes ont longtemps considéré, c'est vrai, que manger des protéines d'origine animale allait de soi, mais cette évidence semble aujourd'hui de moins en moins clair. En cause des recherches scientifiques qui montrent par exemple que la rupture entre l'humain et l'animal n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le penser, ou qui mettent en évidence l'impact environnemental très coûteux de la consommation de viande, sans oublier non plus sur notre petite liste les peurs bien sûr liées à des scandales tels la vache folle ou encore les chevaux déguisés en bœuf dans nos barquettes de lasagne. Alors entre crainte et plaisir carnivore, nous allons trancher dans le vif, Sophie Proust. Qu'est-ce que cette viande qui nous intéresse autant?
Je vous propose déjà de disséquer le mot lui-même. Viande, ça vient du latin vivenda, qui signifie ce qui sert à la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, viande signifiait tous les aliments, hein, légumes compris. Notre appétence pour l'aliment carné n'a cessé de croître ces dernières années. En 50 ans, la consommation mondiale est passée de 23,1 kg par personne et par an à 42,2 kilos. Cette tendance, d'après les experts, va aller au rythme de l'augmentation de la population mondiale, c'est-à-dire crescendo. Chaque année, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins passent à la casserole. Ce sont surtout les pays émergents, vous le savez, qui gonflent cette consommation. Une consommation qui est signe de richesse, d'où la difficulté pour l'Occident, sans doute, à endosser la panoplie de perles à morale sur ce dossier de la consommation de viande. Quand on consomme de la viande, ce n'est pas uniquement des acides aminés, des protéines, des sels minéraux, des vitamines qu'on ingère, c'est aussi du symbole. Vous le disiez tout à l'heure, cette consommation massive pose un problème environnemental et éthique pour disséquer donc la viande. Cet obscur objet du désir, aussi bien culturel qu'alimentaire, Éric Birlouez est avec nous ce matin, médiateur de la rencontre sur le thème « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» aux éditions Le Muscadier, paru en 2014.
Éric Birlouez, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios à Paris. Je précise donc à l'intention de nos auditeurs que vous êtes ingénieur agronome de formation et sociologue. Alors, Éric Birlouez, on l'a dit, manger de la viande, ça ne va plus vraiment de soi aujourd'hui, alors qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, disons pour la génération de nos parents ou de nos grands-parents, ben c'était tout le contraire. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, Éric Birlouez, est-il pour autant radicalement nouveau au regard de l'histoire ?
Eh bien, en fait, non, parce que là, vous insistez sur ce caractère changeant de la consommation de la viande. C'est-à-dire qu'il y a eu une période pendant les 30 Glorieuses où les gens n'ont fait qu'augmenter leur consommation de viande. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années, en tout cas en France, mais aussi dans d'autres pays, on note une désaffection vis-à-vis de la viande. Mais cela, effectivement, n'est pas nouveau parce que la viande est un aliment qui, depuis l'origine, est un aliment ambivalent. Ça veut dire qu'à la fois, c'est un aliment que les hommes ont convoité, et on sait que les hommes préhistoriques, lorsqu'ils ont eu la possibilité de manger de plus en plus de viande, eh bien, ils s'en sont pas privés, ils ont organisé les chasses aux grands animaux, parce que la viande présente, malgré tout, des intérêts nutritionnels, et procure du plaisir à beaucoup de personnes. Et puis en même temps, il est tout à fait intéressant, et parallèlement, pardon, on voit également que dans tous les pays, les pauvres n'ont qu'une idée en tête, c'est de pouvoir manger de la viande comme les riches, puisque, vous l'avez dit, la viande est un symbole, et depuis la nuit des temps, c'est un symbole de richesse, de prospérité, de force physique, de vigueur sexuelle. Et dans le même temps, c'est là où est l'ambivalence de la viande, c'est un aliment adoré et en même temps abhorré, c'est-à-dire un aliment dont on se méfie. Si vous regardez les interdits alimentaires, les tabous qui portent sur les aliments, on est frappé de voir que dans la très très grande majorité des cas, ces interdits portent sur des produits animaux et particulièrement sur la viande. Il y a très peu d'interdits alimentaires qui portent sur les végétaux. Alors pour des raisons, pour le dire rapidement, on pourra bien sûr le développer, qui tiennent au fait que la viande, si on regarde le dictionnaire, c'est le Littret par exemple nous dit la viande c'est la chair des animaux dont l'homme se nourrit, la chair, c'est-à-dire que la viande, c'est du muscle, et l'animal, il est fait de muscles, de sang, d'os, de peau, exactement comme nous. Donc il est clair que si nous ne faisons pas la différence très nette entre humanité et animalité, ça devient inconcevable de manger de la viande. Et puis l'autre aspect, c'est ce que les anthropologues appellent le meurtre alimentaire. Pour manger de la viande, il y a un préalable incontournable. Il faut mettre à mort l'animal, et dans les sociétés traditionnelles, cette mise à mort de l'animal a toujours suscité de la culpabilité, du malaise, et c'est pour ça que lorsqu'on mangeait de la viande, eh bien avant on avait fait un sacrifice odieux, on mangeait de manière rituelle dans un banquet qui réunissait beaucoup de monde, de manière à diluer en quelque sorte la culpabilité de ce meurtre lié à ce meurtre alimentaire, à cette mise à mort de l'animal. Donc vous voyez, c'est pas du tout nouveau le fait que la viande suscite à la fois un attrait, une convoitise que l'on voit aujourd'hui dans les pays émergents, vous le soulignez, et en même temps une méfiance, une suspicion, voire même carrément un rejet.
Vous le disiez, autrefois on diluait la culpabilité en se réunissant autour d'un banquet.
Oui.
Aujourd'hui, on met les abattoirs à l'extérieur. C'est une autre façon de se disculper ?
Oui, alors il y a eu effectivement ce mouvement de mise à distance des abattoirs à l'extérieur des villes. Alors bien sûr, on dit que c'est pour des raisons d'hygiène, mais c'est aussi parce qu'on veut éloigner des yeux la vision de ces animaux qui vont être tués. Et puis vous savez, dans les étals de nos supermarchés, la viande est entre guillemets chosifiée. C'est-à-dire on s'arrange pour que vous ne reconnaissiez pas dans le morceau de viande que vous achetez une partie d'un animal qui a été vivant. C'est-à-dire qu'on vous met la viande dans une barquette de polystyrène entourée d'un film de cellophane. Il faut pas on vous vend des escalopes de poulet. Enfin, il faut quand même pas que ça ressemble trop à l'animal. Et ce que nos parents et grands-parents voyaient chez les tripiers, dans les boucheries charcuteries, qui étaient ces langues de bœuf, ces tripes, etc. Les têtes de veau. On voit ça quand même de moins en moins. Donc, vous voyez, il y a effectivement cette mise à distance parce qu'on n'a pas trop envie de voir finalement que cet aliment, la viande, eh bien, à l'origine, c'est la partie d'un corps qui a été vivant et qui, par bien des aspects, en tout cas pour les mammifères, nous ressemble.
Justement, Éric Birlouez, vous parlez de cette angoisse du meurtre alimentaire, comme vous le dites. Est-ce que ça nous renvoie peut-être pas aussi à la peur tout simplement d'être mangé? C'est-à-dire, ce qu'on fait à l'animal, peut-être qu'on peut le faire à l'humain, et ce qui expliquerait au fond autour de ce tabou du cannibalisme, pour faire court.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une notion importante de l'anthropologie de l'alimentation, là aussi, qui est ce qu'on appelle l'incorporation. C'est-à-dire que lorsque je mange, en fait, j'incorpore un aliment, mais au sens littéral du terme, incorpore, c'est-à-dire je le fais pénétrer à l'intérieur de moi. Donc il y a cette dimension de violence là que vous évoquez, de cannibalisme, c'est-à-dire si je considère que l'animal est un quasi semblable et d'une certaine manière un autre moi-même, on voit bien que le fait de l'incorporer, le faire pénétrer à l'intérieur de mon corps, ça peut être assimilé, en tout cas par certaines personnes, à de l'anthropophagie. Et donc cette notion d'incorporation, elle est très importante parce que par nature, mais depuis la nuit des temps, on peut penser que l'homme se méfie, plus ou moins consciemment bien sûr, mais se méfie de ce qu'il incorpore parce qu'il a le sentiment que ce qu'il fait rentrer à l'intérieur de lui, eh bien, devient lui. Et donc peut le modifier sur le plan de la santé, aussi sur le plan symbolique. Donc là, on est vraiment au cœur de cette relation très particulière que nous avons avec notre alimentation, qui est à la fois un besoin vital, qui est une source de plaisir, en tout cas pour beaucoup de personnes, mais qui est en même temps une source d'anxiété profonde.
Alors, Éric Birlouez, je vous propose, on va faire un petit détour en votre compagnie, Sophie Proust, autour de cette question de savoir au fond pourquoi on mange, en tout cas dans nos sociétés, pourquoi on mange du veau et pas un chien ou un chat, etc. Et donc, Sophie, ça vous a poussé à rencontrer ce qu'on appelle des antispécistes, c'est-à-dire que pour eux, il n'existe pas au fond de différence entre l'animal et l'humain.
Alors, il existe une petite différence quand même, hein, ils savent très bien qu'une poule ne tiendra jamais une chaire de philosophie, par exemple, qu'un taureau ne passera sans permis de conduire. Leur raisonnement est assez simple. Les animaux ont, comme nous, la capacité de ressentir le bien-être, de ressentir la souffrance, et comme nous, ils éprouvent aussi le besoin de se soustraire à la souffrance et de rechercher le bien-être. Et ces constats devraient donc conduire les humains à éviter de faire souffrir les animaux, c'est leur position. Le philosophe Richard Ryder a tiré donc un trait d'union entre le spécisme. Alors je vais vous expliquer ce qu'on appelle spécisme, c'est la distinction entre espèces dignes ou non de bienveillance. Il a tiré un trait d'union entre le spécisme, le racisme et le sexisme. Sa position, c'est de dire le différent n'autorise pas la négation des droits. Ceux qui pensent comme lui se sont donc réunis il y a un mois et je vous propose de me suivre à Genève pour la première marche contre l'exploitation des animaux.
Non au spécisme. Non au spécisme.
Oui à l'altruisme.
Alors pour moi, ça veut dire militer pour le respect du vivant sans aucune distinction. Bon, et on a d'autres possibilités, d'autres alternatives tout aussi bonnes que de faire souffrir un être vivant. Même si je ne suis pas encore capable de l'appliquer concrètement et d'être à 100% cohérent avec ça aujourd'hui, je vise à cette cohérence-là, effectivement. Oui.
On parle d'exploitation animale. Il se trouve qu'on vit dans un monde où les humains sont aussi exploités. Est-ce que c'est un combat qui se veut général et qui touche aussi l'humain ?
Pour moi, c'est évident que c'est de mettre tout le règne vivant au même plan. Donc évidemment que là, aujourd'hui, il est particulièrement question des animaux, mais évidemment que pour les autres humains qui subissent de l'exploitation ou de l'esclavage de quelconque manière, oui, bien sûr, c'est le même combat. Il y a d'autres arguments qui, aujourd'hui, dans une société archi-consumériste, qui posent question et qui nécessitent peut-être qu'on se remette en question. Et les questions environnementales sont absolument évidentes. On sait aujourd'hui la pollution que génèrent des élevages intensifs. Ça a aussi des conséquences, à part ça, sur des populations humaines à l'autre bout de la planète. Maintenant, c'est vrai qu'en Occident, on a un peu tendance des fois à être un peu aveugle, vu que c'est loin, on le voit pas, c'est pas sous nos yeux, donc c'est facile de détourner le regard. Je pense même qu'il y a des arguments économiques qui sont aussi à prendre en compte. Ouais. Par exemple, justement, le fait que dans la répartition nord-sud, le déséquilibre, tout le monde le connaît, il est gigantesque. On voit aussi tout ce qui se passe aujourd'hui avec les vagues d'immigration qui inondent l'Europe. Alors, il y a des questions de conflits, de guerre. Il y a aussi des questions de ressources, d'accès à l'alimentation.
Donc manger moins de viande permettrait de partager les ressources.
Clairement, oui. À mon avis, en tout cas, oui.
Les animaux, ils ont autant de droits que nous de vivre en paix, tranquille, sans être enfermés à quelque part ou sans qu'on leur enlève leurs petits.
Vous êtes végétarienne ?
Oui. Mais il y a des trucs qui ne sont pas forcément évidents de tout arrêter en même temps, quoi.
La viande, vous avez arrêté il y a longtemps ?
Ça fait une année, grâce à Maxime Ginolin, au jugement. C'est un petit film, un court-métrage qu'il a fait par rapport à notre comportement humain, par rapport aux animaux. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Oui, il est là. Vous pouvez le...
Oui, d'accord.
Oui, il est
c'est
par
c'est
là.
Qui
venez, je vais voir. Il a les cheveux. Je m'excuse. Tu t'appelles Maxime ?
Oui.
Ouais. C'est grâce à toi que je suis devenue végétarienne pour l'instant.
Cool.
Et je tends au vegan.
Bravo.
Et le jugement, je l'ai regardé 2, 3, 4 fois. Je l'ai passé à mes amis. Enfin, ça a fait réfléchir pas mal de monde. Et puis, je voudrais te remercier beaucoup.
Ah, c'est adorable. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que c'est que ce film ?
Alors c'est un film que j'ai produit, donc c'est un moyen métrage de 30 minutes qui est donc une fiction dans l'univers un petit peu dans le style de Tim Burton, qui en fait a pour but de démonter les arguments des lobbyistes de l'agroalimentaire au niveau de la santé publique, de l'environnement, mais aussi de l'éthique. Voilà, donc le film contre-argumente sur ces trois points. Voilà, c'est une fiction, mais qui, quand on en ressort comme si on avait regardé un documentaire, évidemment. Au niveau des chiffres, au niveau des études et du constat qui est fait sur la planète et notre espèce, on peut considérer que c'est comme un documentaire sur certains points. Le jugement, voilà. Vous pouvez le voir sur YouTube, il a dépassé il n'y a pas longtemps 1 million de vues. Voilà, et là il va sortir en version américaine aux États-Unis dans pas longtemps. Voilà. Avec plaisir.
Qui est active dans toute la Suisse pour On remet en question ce qu'on appelle l'ordre spéciste, qui est un ordre de domination de l'humanité sur les autres animaux et qui est un ordre structurant de l'ordre social. Ça a été une croyance religieuse à une époque, je pense. Aujourd'hui, elle s'est laïcisée, mais il y a vraiment une croyance très forte que l'humanité est une espèce supérieure qui, de ce fait, a une dignité spécifique qui lui accorde des droits, dont le droit exorbitant d'asservir, de mettre en esclavage et d'user à son profit de toute manière les autres animaux. Et c'est ce droit-là qui est défendu, en fait, je pense, à travers cette hostilité envers les gens qui refusent de participer à une sorte de carnage monumental qui n'a pas d'autre signification d'une certaine façon que de signifier justement notre supériorité. Il y a d'ailleurs des études qui ont été menées en psychologie sociale, qui montrent, à base de questionnaires, qui montrent que statistiquement, plus une personne est spéciste, plus il y a des chances qu'elle soit raciste et sexiste, et réciproquement. Il ne s'agit pas de liens de cause à effet, mais de liens de corrélation. Il y a une sorte de matrice globale discriminatrice qui est plus ou moins agissante suivant les lieux et les dates et suivant les gens. Mais on voit que c'est vraiment très corrélé. Il y a une sorte de système discriminant, qui est un système mental, imaginaire, qui est de l'ordre de l'idéologie. Moi, je suis engagé dans énormément d'autres luttes, des luttes intra-humaines. Je m'occupe d'une maison d'édition qui publie des bouquins, des essais politiques, qui sont beaucoup axés sur les luttes des humains contre l'exploitation économique, mais aussi d'autres types d'exploitation. Mon engagement pour les animaux n'a pas des racines différentes de mon engagement pour les humains. C'est une même morale, en fait, qui est à l'œuvre. Un domaine dont on parle peu, c'est la consommation de poissons et d'animaux aquatiques. C'est un domaine qui cause des torts immenses à un nombre incroyable d'animaux. On estime qu'il y a chaque année dans le monde entre 1000 et 3000 milliards de poissons qui sont pêchés ou qui sont élevés dans des élevages, dans des conditions qui sont encore pires que celles des poulets en batterie, qui sont tués dans des conditions qui sont absolument atroces. Et il faut vraiment aussi qu'on prenne conscience de ça.
Ici, il y a des lois qui sont assez strictes par rapport à d'autres pays sur le bien-être animal dans les élevages. Est-ce que ça, ce n'est pas satisfaisant ?
Non, c'est pas satisfaisant pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont pas quand même des lois qui protègent les intérêts fondamentaux des animaux à vivre et à vivre une vie bonne. Et aussi parce que ce sont des lois qui finalement ne sont pas si bonnes que ça. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement meilleures que dans la plupart des autres pays. Mais ce sont néanmoins des lois qui permettent des mutilations, des séparations et un abattage à la chaîne qui est absolument monstrueux. Et aussi, ce sont des lois qui ne sont pas respectées. Et on ne peut pas placer un contrôleur derrière chaque animal pour vérifier la façon dont il est élevé, la façon dont il va être transporté, la façon dont il va être tué. Mais même si elles étaient respectées, ça resterait des lois qui sont très, très largement insuffisantes. Il y a vraiment un problème avec l'élevage, la consommation d'animaux.
Tous différents, tous égaux, pour les droits des animaux. Tous différents, tous égaux.
Voilà, témoignage recueilli en marge de la première marche contre l'exploitation des animaux. C'était en août dernier à Genève. Éric Birlouez, peut-être une première réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors on voit bien, ça a été très bien montré dans ce reportage, que vraiment la question clé, au-delà de la question de la santé, du respect de l'environnement, de la sécurité alimentaire mondiale, et même de la souffrance animale, qui sont des questions évidemment tout à fait au cœur du sujet, on est vraiment dans une question philosophique, morale, éthique, qui est la question du statut de l'animal, des droits qui sont ou non reconnus à l'animal, de la place respective de l'homme à l'animal. On a parlé d'exploitation, bien sûr, de domination. Est-ce qu'il y a une rupture ? Est-ce qu'il y a au contraire un continuum entre l'homme et l'animal ? Tout ça pose évidemment beaucoup de questions, parce que déjà on pourrait se poser la question de quel animal parle-t-on ? Car évidemment le règne animal est extrêmement diversifié. bon, tous les animaux ressentent-ils la souffrance, recherchent-ils le bien-être, jusqu'à quel degré? On pourrait sans doute discuter sans fin sur cette question-là. Mais en tout cas, c'est ça qui est frappant, c'est cette évolution des mentalités de notre société qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous reposons cette question. Cette question, on l'a vu, qui était présente déjà dès l'Antiquité et même probablement dès la préhistoire. On sait que des chasseurs-cueilleurs que Claude Lévi-Strauss a pu étudier avant de tuer un animal qui n'est même pas un animal élevé, c'est-à-dire même pas un animal avec qui il y a eu une relation affective qui s'est établie, eh bien ces chasseurs-cueilleurs adressent des prières, des excuses à l'animal. Voilà, comme on le disait en commençant, c'est quelque chose de très ancien, cette question-là, et aujourd'hui, ça ressurgit parce que, tout simplement, il y a une évolution de la société, il y a des prises de conscience qui aboutissent donc à ces prises de position. Je terminerai juste en disant, on l'a évoqué, on a parlé du végétarisme dans le reportage, je pense qu'il faut utiliser le pluriel, parce qu'il y a en réalité des végétarismes. Il y a même un mot, d'ailleurs, qu'on utilise aujourd'hui, qu'a créé un auteur américain, il parle de flexitarisme, c'est-à-dire qu'on peut être végétarien, j'allais dire radical, mais sans jugement de valeur derrière le terme de radical, c'est-à-dire en étant vegan, c'est-à-dire on refuse absolument toute, non pas seulement la consommation des produits animaux, mais toute exploitation de l'animal. On ne porte pas de cuir, on ne porte pas de foulard de soie sauvage, on ne porte pas de laine, on n'emmène pas ses enfants au zoo ou au cirque, etc. Et puis il y a des personnes qui, soucieuses du bien-être animal, sont des végétariens plutôt soft. On mange pas de viande, mais on peut manger du poisson. Ou on ne mange pas de viande la semaine, et on en mange le week-end quand on est invité chez des amis ou quand on va au restaurant. Donc il y a cette diversité. Il n'y a pas qu'une manière d'être végétarien. Il y a un continuum d'attitudes et de pratiques.
Revenons sur la viande, hein, qui est le sujet du jour. J'aimerais vous soumettre une anecdote. Une de mes consoeurs me disait un jour qu'un amant végétarien ne lui conviendrait pas. En fait, la viande, c'est la force. C'est ce qui nous pousse également, à part le goût, c'est ce qui nous pousse à aller vers cet aliment.
Oui, alors effectivement, alors il y a deux, bon, ce que vous dites là, l'amant végétarien, donc qui serait réputé comme manquant de vigueur, hein, c'est ça qu'on imagine, on retrouve bien cette notion d'incorporation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il est végétarien, eh bien il ne peut pas avoir la force, la vigueur qu'apporte la viande. La viande, c'est un aliment évidemment qui a d'abord des propriétés nutritionnelles. On sait que la viande est plus riche en protéines que ne le sont les végétaux, par exemple. Enfin, la plupart des végétaux comme les céréales, les légumes ou les fruits, que la viande contient des nutriments. Mais il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, que la viande est quelque chose qui procure un plaisir sensoriel. Et moi, je connais un certain nombre de végétariens et même de véganes qui me disent « Mais moi, j'aime le goût de la viande. Quand je mangeais la viande, j'aimais son goût. » Donc si je suis devenu végétarien ou végane, ça n'est pas par dégoût sensoriel, mais pour les raisons que l'on a évoquées. La viande apporte également une satiété rapide, durable, etc. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, biologique, physiologique, nutritionnel de la viande. Mais c'est évidemment bien plus que ça. Comme tout aliment, ce que nous mangeons, ce ne sont pas seulement des nutriments, ce sont aussi des symboles, des rêves, etc. Et effectivement, la viande a, depuis la nuit des temps, été, pour des raisons assez évidentes d'ailleurs, l'incarnation, oui, c'est le cas de le dire, l'incarnation de ces valeurs qui a autrefois été très très importantes dans la société, la force physique, la vigueur sexuelle, le prestige, le pouvoir, la richesse, la prospérité. Donc cette dimension symbolique de la viande se rajoutait aux propriétés biologiques, nutritionnelles, physiologiques de la viande, pour faire de la viande un aliment qui était extrêmement convoité, extrêmement attirant, tout en étant, c'est le paradoxe que j'évoquais en commençant, un aliment dont on se méfie à cause du meurtre alimentaire et de cette proximité entre l'homme et l'animal.
Eh bien, Eric Birlouette, moi je vous propose de passer à table. Je vous rassure, hein, pas de steak au menu, mais un morceau de premier choix, c'est Poulet 728120, et c'est Philippe Catherine. Ah.
128 120 poulets de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime. Je pense à toi.
Voilà, donc avec ou sans poulet, manger de la viande ne va plus de soi. C'est ce changement d'attitude que nous disséquons en compagnie d'Éric Birlouez, sociologue et ingénieur agronome de formation. Éric Birlouez, vous êtes en duplex de Paris, capitale évidemment de la gastronomie française. Oui. Et dans un pays où gastronomie rime avec viande, hein. Manger, c'est manger de la viande en gros. Or, il se trouve qu'un grand chef, Alain Ducasse, a carrément supprimé la viande de la carte du Plaza Athénée à Paris. Alors, c'est le signe annonciateur d'une nouvelle révolution française ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu surprenant dans un pays qui reste, comme je le disais, assez carnivore. Les Français ne sont pas les plus gros consommateurs de viande au monde. Les Américains en mangent davantage, les Argentins également. Mais quand même, ça fait partie de notre culture et la viande... Et vraiment, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays bien sûr, est vraiment au centre du repas. La preuve, c'est que quand on parle des légumes, quand on parle du riz, des pâtes, etc., eh bien on parle de l'accompagnement. Ça veut dire que le centre de l'assiette, le centre du repas, c'est effectivement la viande. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans notre culture alimentaire française, mais qui est en train d'évoluer, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est le signe avant-coureur d'une véritable révolution, le fait qu'Alain Ducasse enlève la viande de ses menus. Enfin, d'autres l'avaient fait avant lui. Hein. Alain Passard, par exemple, depuis longtemps, cuisine plutôt les légumes et que la viande. Mais on a cette évolution. Pour autant, pour ce que l'on connaît des chiffres en France, le pourcentage de végétariens reste quand même très faible. La dernière étude de sondage dont on dispose date de 2012 et montrait que 3% des Français, seulement 3% des Français, se reconnaissaient végétariens avec toutes les formes que j'indiquais tout à l'heure. Je pense que si on faisait l'enquête auprès des populations plus jeunes, moi je travaille actuellement avec des étudiants, puis j'ai des activités d'enseignement, je dirais qu'il y a plus de 3%, mais je ne sais pas combien exactement, plus de 3% d'étudiants végétariens. En tout cas, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Là, je parle des jeunes générations. Aux États-Unis, par exemple, on sait que seulement 4% de la population américaine est végétarienne. Mais si vous interrogez la population des étudiants américains, des grandes universités américaines, là, vous passez de 4 à 20%. Vous voyez ? Donc, il y a un phénomène de génération qui me paraît incontestable. Bon, quelle ampleur prendra-t-il au final ? Ça, je ne suis pas devin pour le prédire.
Je peux rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, lors de la manifestation à Genève, la population, j'ai pu le constater, était très jeune. Parlons à nouveau de pensée magique. La médecine elle-même favorise un peu cette pensée que la viande, c'est la force. Hein. S'il y a un dérèglement en fer, par exemple, qui intervient dans une analyse sanguine, le généraliste va se précipiter pour vous proposer un régime à base de viande pour booster votre consommation carnée. On constate en même temps, lors des dernières études sur l'impact de la consommation de viande sur notre santé, qu'elle favoriserait quand même l'apparition de certaines pathologies, notamment cardiovasculaires, oui. les cancers oui. de l'intestin, de l'estomac, et qu'il suffirait de manger 100 grammes de viande par jour pour créer ces dérèglements.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire, en fait, je crois que c'est vraiment une question de mesure. En tout cas, mon point de vue personnel, que la viande, encore faut-il définir ce que l'on entend par viande et dans quelles conditions elle a été produite. La viande ne semble quand même pas être le poison que l'on décrit parfois. À l'inverse, on peut tout à fait vivre sans viande et les millions de végétariens montrent qu'on peut tout à fait être en forme et avoir de la force physique et être des amants vigoureux sans manger de viande, pourvu que, bien évidemment, on équilibre son alimentation pour trouver dans les légumes secs, dans les légumineuses, les acides aminés complémentaires qu'on ne trouvera pas dans les céréales ou les fruits et légumes. Donc voilà, moi je dirais la viande n'est ni un poison, mais la viande n'est absolument pas un aliment indispensable. Les produits animaux, là on peut évidemment discuter, puisqu'on sait que la vitamine B12, par exemple, on ne la trouve que dans le règne animal. Donc un végétalien, quelqu'un qui ne consomme strictement aucun produit d'origine animale, fait vraiment courir des risques à sa santé s'il ne prend pas des compléments alimentaires de vitamine B12, ce qu'ils font en général. Donc voilà, on est un petit peu entre les deux, et c'est vrai que la pensée magique est importante. Cette idée que, si vous interrogez les gens dans la rue, en France, en Suisse aussi probablement, vous aurez certainement beaucoup de gens qui vous diront « Mais évidemment que la viande est un aliment qui est nécessaire pour avoir de la force, qui est nécessaire aux travailleurs manuels, etc. » Mais la science ne l'a jamais démontré. Donc vous voyez, on voit bien encore une fois que l'aliment, ça n'est pas que des nutriments, l'aliment c'est aussi des symboles, des images, des représentations mentales que l'on s'est forgées au fil des générations.
Éric Birlouez, on parle pensée magique et rituel. Alors c'est vrai que si on laisse traîner son regard à l'heure du barbecue par exemple, bah là on voit un joli rituel hein, autour de la viande bien sûr. Et donc on mange du culturel, on mange du lien social, du fédérateur. Pourquoi ça marche pas avec les légumes ?
Oui, pourquoi ça marche pas avec les légumes? Bon, il y a justement, c'est ce qu'essayent de faire les personnes végétariennes, de dire mais on peut manger des légumes, des céréales, des fruits, etc. Dans un climat de convivialité et de plaisir. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que c'est plutôt la viande quand même qui a été associée à ce lien social. On se retrouve autour du feu pour déguster une viande que l'on a fait cuire. Je pense que, alors, je sais pas quelle est véritablement l'explication, mais c'est vrai que la viande, et plus exactement l'acquisition de la viande, a été au cœur de l'organisation sociale des premières sociétés, puisque on peut individuellement ramasser des baies, cueillir des terrains, des légumes sauvages, mais quand vous chassez un animal, un gros animal, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et donc, vous voyez, le fait, cette appétence pour la viande des omnivores, de nos ancêtres omnivores, eh bien ça les a obligés à s'organiser, ça les a obligés à coopérer. Pourquoi ? Parce qu'il fallait chasser les gros animaux et on ne pouvait le faire qu'en groupe, on ne pouvait le faire. Donc vous voyez, cette idée de coopération,
de lien, quoi, ouais,
de lien qu'on va retrouver après. Et puis quand vous avez tué aussi un gros animal, vous pouvez pas, même si vous l'avez tué tout seul, vous n'allez pas le manger tout seul. Donc vous voyez, on a bien cet aspect social, collectif, à la fois l'acquisition de la viande au travers de la chasse des gros animaux, et puis ensuite le partage de la dépouille de l'animal, et là va se poser plein de questions, qui a droit au meilleur morceau, etc. Et donc il faut se donner des règles de vie en société. Donc vous voyez, on voit bien que la viande, plus qu'une racine de n'importe quel légume sauvage, va stimuler finalement cette dimension sociale.
Mais Éric Birlouez, les textes religieux, en tout cas beaucoup de textes religieux, disent que l'homme peut disposer de la nature, y compris des animaux, mais qu'est-ce qui distingue alors en fait l'animal mangeable de l'animal non comestible ?
Oui, alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, juste avant, je rappellerai, c'est assez intéressant de voir que rappelons-nous que le paradis terrestre est végétarien. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève vivent en harmonie avec les animaux. Et finalement, ça n'est qu'après le déluge, donc l'histoire de Noé, que Dieu autorise à l'homme le droit de consommer des animaux, parce que vraiment l'homme n'est pas à la hauteur, il n'est pas capable de vivre en parfaite harmonie avec les animaux. Donc c'est vrai qu'il y a des liens importants entre les religions, on n'a pas évoqué également, mais pensons, juste avant de répondre à votre question, aux pratiques d'abattage rituel, kasher, halal chez les musulmans et kasher chez les juifs, où là aussi on peut interpréter les choses comme « je demande à Yahvé » ou à Allah, je demande l'autorisation de mettre à mort l'animal. Donc je vais quand même manger de la viande. C'est légitime de manger de la viande, mais il y a un préalable qui est d'abord une certaine manière de tuer l'animal, de le vider de son sang. Quand on vide l'animal de son sang, c'est pas du tout pour des raisons d'hygiène. C'est simplement par ce geste, on épand le sang. Le sang, c'est la vie. Et on montre à Dieu qu'on lui rend la vie qu'il a donnée. Donc on mange de la viande dans un cadre religieux. Après, donc, il y a la question que vous posiez, comment se fait-il que il y a des animaux que l'on puisse consommer, d'autres que l'on consomme pas? En fait, c'est aussi une question de, peut-être de proximité. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait une bonne distance. Les animaux qui sont trop proches de nous, et notamment les animaux familiers. Et moi, je pense qu'une des raisons de toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui avec la viande, c'est aussi parce que nos sociétés ont de plus en plus d'animaux de compagnie. En France, nous sommes 65 millions d'habitants. Il y a 65 millions d'animaux de compagnie, en comptant tous les chats, les chiens, les oiseaux, etc. Donc là, on est trop proche. On va pas manger notre chien, on va pas manger notre chat, parce que là, il y a une proximité affective tellement grande que c'est complètement inconcevable. Et puis, l'autre échelle, il y a les animaux qu'on va pas manger. En tout cas, dans notre culture française, on va pas manger des araignées, on va pas manger des scorpions, a du mal à manger des insectes, etc. Je parle bien. Voilà, culturellement, ces animaux nous paraissent tellement loin de nous qu'il est qu'on les met dans la catégorie du non mangeable. Et puis donc il y a la catégorie intermédiaire de ces animaux perçus comme n'étant ni trop proches affectivement, ni trop éloignés biologiquement, et pour lesquels donc que l'on s'est mis à manger, et parfois en cherchant à se déculpabiliser, comme on l'a vu, en mettant les abattoirs un petit peu loin, en pratiquant des mises à mort, des abattages rituels, etc.
Consommer de la viande ne pose pas de problème moral pour pas mal d'entre nous. Néanmoins, les répercussions de notre consommation sur l'environnement ont conduit certains à proposer d'autres sources, on va dire, de protéines. Vous venez de citer les insectes, Eric Birlouez, Sophie Proust. D'autres font un autre pari, par exemple celui du steak de synthèse.
Exactement. Actuellement, on compte de nombreux projets pour aboutir à une viande de synthèse satisfaisante pour le goût et pour le porte-monnaie. Cette solution permettrait de nourrir la planète tout en préservant les terres cultivables dévolues aujourd'hui à l'élevage. Moins de gaz à effet de serre, moins d'eau gaspillée, moins de souffrance animale. Avec quelques cellules, en fait, on peut produire 10 tonnes de viande. La presse a baptisé Jack Post l'un des chercheurs dont les travaux ont abouti, Frankenburger. Si Frank Post est subventionné par un mystérieux sponsor, le célèbre Bill Gates lui-même ne se cache pas d'investir aussi dans ce secteur qu'il considère comme prometteur. Il pense que la viande de laboratoire est un moyen carrément de sauver la planète. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire La viande in vitro, bientôt dans nos assiettes. C'est signé Véronique Préau, diffusé sur Arte il y a 2 ans.
La scène se passe dans le sud des Pays-Bas, à l'université de Maastricht. Dans une cuisine réservée aux chercheurs, 3 hommes se retrouvent en huis clos pour une grande première. Marc Post est le directeur du laboratoire. Il va faire cuire un morceau de viande in vitro, entièrement fabriqué à partir de cellules cultivées en laboratoire. Voici le résultat de 6 ans de travail.
C'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Parfait.
Maintenant, il faut le démouler.
Avec son technicien, Marc Post a ajouté aux cellules de la chapelure pour la consistance, du jus de betterave, du caramel et du safran pour la couleur. Le représentant du mécène américain assiste à l'événement.
La viande est en train de brunir. C'est super.
C'est le premier hamburger fabriqué à partir de cellules de bœuf cultivées en laboratoire.
À la cuisson, le steak in vitro se comporte comme un steak haché classique. Les trois hommes veulent aboutir à un authentique hamburger.
Ça a l'air bon. En fait, ça a l'air délicieux.
C'est le moment de vérité. Très bon.
L'histoire de la viande in vitro commence à Amsterdam. C'est le rêve d'un homme depuis l'âge de 16 ans, depuis son retour d'un camp japonais où il a été incarcéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais obsédé par la maltraitance faite aux hommes et aux animaux, Willem van Helen n'a de cesse d'abolir l'étape animale dans la chaîne alimentaire humaine. En 1981, la découverte des cellules souches chez la souris ouvre le champ de la recherche sur la culture de cellules. Les cellules souches, que l'on trouve dans tous les organismes vivants, sont capables de devenir n'importe quelle cellule du corps humain, neurones, sang, muscles, c'est-à-dire de la viande. Cette découverte rend le rêve de Willem van Helen possible.
Nos enfants découvriront dans leur livre d'histoire que les humains n'avaient pas les connaissances techniques pour produire de la viande. Ils seront choqués de lire que les humains devaient tuer des animaux et les manger.
À l'université d'Utrecht, au tout début des années 2000, son idée fait des émules.
C'est lui qui a proposé l'idée, le parrain qui a vraiment lancé l'histoire ici aux Pays-Bas. Il est venu vers moi et il m'a demandé « Êtes-vous intéressé pour fabriquer de la viande sans animaux ?» J'ai pensé que c'était une idée très drôle, farfelue. Bien sûr, j'avais lu des livres de science-fiction et je savais qu'il y avait des gens qui pensaient à cela. Mais j'ai aussi pensé à tous les obstacles qu'il fallait franchir. Mais au bout d'un moment, je suis devenu moins sceptique et j'ai écrit un programme de recherche pour un consortium.
Le consortium rassemble à l'époque trois universités hollandaises. Le projet a besoin d'argent. Il cherche des partenaires industriels et s'adresse au gouvernement hollandais.
Les entreprises ne voulaient pas encore se lancer. Elles ne voulaient pas associer leur nom à un projet futuriste comme la viande in vitro. Mais nous, nous étions persuadés que c'était un projet rentable et intéressant. Le rôle du gouvernement est de stimuler le développement de nouvelles protéines. De nouvelles protéines qui ne sont pas encore consommées par les humains. Nous voulons aussi être un bon exemple pour le reste de l'Europe et le monde entier.
En 2004, le gouvernement accorde au projet 900 000 euros. Deux ans plus tard, un nouveau chercheur du nom de Mark Post rejoint l'équipe. Mais en 2008, le consortium se retrouve à nouveau sans financement.
Alors on s'est assis tous ensemble et on s'est dit, comment pouvons-nous résoudre ce problème de financement ? On est arrivé finalement à l'idée qu'il fallait donner une preuve de notre concept et le présenter au public pour changer le discours, pour passer de l'idée folle d'une poignée de personnes venant d'un tout petit pays qu'on connaît à peine, à « Waouh, c'est une réalité, ça va arriver ». Renseignons-nous, commençons à nous y intéresser et à le développer.
Aujourd'hui, à 55 ans, Mark Post est le père de la viande en éprouvette. Mais l'idée de départ, ça n'était pas un hamburger.
Au départ, on avait pensé à une saucisse parce qu'on travaillait surtout sur des cellules de porc. On se disait, on prend un petit échantillon d'un cochon vivant On fait pousser une saucisse et ensuite on va dans un restaurant Michelin 3 étoiles. Le chef cuisine cette saucisse et le cochon gambade autour de la table. Comme ça, les gens peuvent voir le produit et l'animal, toujours vivant. C'était ça l'idée, mais il n'y avait plus d'argent.
Et puis comme ça, tout à coup, cet investisseur est apparu. Et il m'a dit, c'est ce que je veux faire. Je veux financer le bœuf cultivé en laboratoire, la viande in vitro.
Alors Marc a dû abandonner la saucisse parce que la personne en question est un Américain et il préfère les hamburgers aux saucisses. Tout le travail que nous avions fait avec les cellules de porc, il a dû tout recommencer avec les cellules de muscle bovin.
Henk Axman poursuit ses recherches sur les porcs en suivant l'idée de Willem van Helen, nourrir la planète à partir d'une cellule. Et la seule cellule capable de réaliser ce rêve, c'est la cellule souche embryonnaire.
Les cellules souches embryonnaires sont les seules à avoir une vie quasi éternelle. Elles peuvent se diviser, encore et encore. Donc vous pouvez obtenir un grand nombre de cellules à partir d'une seule cellule.
Pour fabriquer une cellule souche embryonnaire, il faut générer un embryon avec un spermatozoïde et un ovule, de porc dans le cas de ces recherches. Il faut ensuite les faire fusionner, laisser grandir l'embryon et y prélever des cellules souches. Elles sont en principe capables de devenir du cœur, des neurones, du muscle, mais en pratique c'est un peu plus compliqué.
Ces cellules sont très spéciales. On ne les trouve pas à l'état naturel chez l'animal ou chez l'homme. Mais on peut les générer à partir du processus de développement embryonnaire. Les cellules souches embryonnaires sont très difficiles à obtenir. Il y a quelques années, elles ont été découvertes chez la souris et il a fallu 10 années supplémentaires pour générer les cellules souches humaines. Au total, avec le singe et le rat, cela n'a été fait que pour 4 espèces seulement à ce jour. C'est très difficile car le développement embryonnaire est très différent suivant les mammifères. Il faut utiliser de nombreuses astuces qui sont toujours un peu magiques, car elles n'ont pas encore été décrites précisément. C'est un processus plein de tentatives et d'erreurs.
La cellule souche originelle, qui pourrait nourrir la planète à elle toute seule, résiste encore aux chercheurs. C'est avec une autre sorte de cellule souche que Marc Post a obtenu ses premiers résultats. Des cellules non plus embryonnaires qu'il faut générer, mais des cellules adultes qui existent déjà dans l'animal. Elles se trouvent dans les parties comestibles de la bête. Ce sont les cellules de muscle qui constituent la matrice de la viande. Il en existe plusieurs sortes suivant leurs fonctions. En moyenne, elles se multiplient 150 fois. On peut donc les cultiver in vitro, en laboratoire.
Ce sont des cellules souches de muscles. Elles sont installées à l'intérieur des muscles de la vache et lorsque celle-ci est blessée, elles réparent le tissu. Elles ne peuvent devenir que des cellules musculaires, rien d'autre. Dans tous les cas, comme ce sont des cellules souches, elles peuvent se diviser. Et c'est ce dont nous avons besoin, puisqu'à partir d'un tout petit morceau, nous voulons fabriquer des tonnes de viande. Nous utilisons donc leur capacité de division pour fabriquer beaucoup de viande à partir d'un petit échantillon.
La viande in vitro, bientôt dans nos assiettes. C'est un documentaire de Véronique Perrault. Sophie Proust, je crois que vous avez fait le calcul pour un petit steak comme ça de synthèse, 140 grammes. Ça ferait combien?
250 000 francs environ, ça vous tente?
Alors c'est un peu cher le gramme, évidemment. Éric Birlois, si on affichait un prix un peu plus bas, vous êtes tenté par l'expérience?
Alors moi personnellement, écoutez, moi comme tout omnivore, je suis à la fois néophobe et néophile. Néophobe, c'est-à-dire que spontanément, j'ai tendance à me méfier de quelque chose que je ne connais pas, d'un aliment nouveau. Mais je suis pas mal néophile, c'est-à-dire je suis assez curieux de voir quel est le goût, quelle est la texture. Et je me dis, ben finalement, pourquoi pas, si le goût et évidemment le prix est accessible. Mais voyez, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire compte tenu de toutes les questions qui se posent, on pourrait arrêter de manger de la viande et puis la remplacer par des protéines végétales appropriées, des extraits d'algues, de légumes secs, etc. Et là, on aurait un équilibre alimentaire. Mais non, beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs certains végétariens, souhaitent en fait continuer à manger de la viande, mais pas de la viande produite à partir des animaux. Donc on a bien cette... ça montre bien que ce goût pour la viande est quelque chose qui reste très, très important.
Alors je ne vous cache pas que quand j'ai proposé ce menu à certaines personnes autour de moi, tout le monde a fait une drôle de tête en disant finalement je préférerais devenir végétarien que manger ces cochonneries synthétiques, parce que ce n'est pas naturel. Mais de quel naturel on parle exactement? Parce qu'on a des vaches qui sont boostées pour produire plus de lait, qui sont remplies d'antibiotiques. En fait, de quoi on parle quand on parle de la nature de la viande?
Oui, c'est vrai que on constate ça, qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui attendent, qui ont une exigence de naturalité, qui considèrent que la nature est bonne en soi. Et quand on creuse un petit peu, finalement, on voit bien que la nature, alors qui est beaucoup fantasmée, qui est beaucoup imaginaire, c'est la nature au sens de quelque chose qui n'a pas été manipulé. Tout ce qui relève des cultures in vitro, de cellules, comme on vient de parler, du clonage des animaux domestiques, des OGM, etc., de l'industrialisation de l'alimentation d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui perturbe l'ordre naturel des choses parce que l'homme manipule, parce que l'homme ajoute, retranche, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui inquiète, comme au moment de la vache folle, l'inquiétude, ça a été de dire on a transformé des herbivores en carnivores en donnant des farines animales aux vaches. Bon, les vaches ne sont pas devenues carnivores, elles étaient toujours herbivores, mais il y a cette grande angoisse de toucher aux lois fondamentales de la nature par toutes ces manipulations.
Très bien, Eric Birloez, merci d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir répondu à l'invitation de Sophie Proust. Sophie, peut-être un livre dont on rappelle le titre pour les auditeurs.
Faut-il arrêter de manger de la viande, donc dont vous étiez le médiateur, Eric Birloez. C'est aux éditions Le Muscadier et c'est paru en 2014.
Merci à l'équipe de Babylone, notre réalisateur Patrick Lenoir au studio de Lausanne, Alexandre Lemierre au studio de Paris et puis Nicole Corpato, assistante de production de Babylone. Enfin, vous le savez, à l'adresse rts.ch/babylone, vous pouvez réécouter, podcaster, télécharger à votre guise, bien sûr, toutes nos émissions. Voilà, demain dans notre assiette, alors tout autre chose, un gros ballon de football. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'écouter Radio Suisse Romande, espace 2. Il est pile 10h.